À voix nue. Toute cette semaine, Martin Kenéen rencontre Simone Schwarzbart. Ce soir, ensemble depuis la sortie d'Égypte.
Simone Schwarzbart, vous êtes l'auteur d'une œuvre où s'entrelacent, comme disait le poète prix Nobel de littérature Derek Walcott, la mémoire et l'imagination. Vous êtes l'auteur de plusieurs romans, d'une pièce de théâtre, Tombeau Capitaine. Vous êtes l'auteur de cette encyclopédie de la femme noire dont on parlait dans notre précédent entretien, et votre œuvre s'entrelace aussi avec celle de votre époux, André Schwarzbart, avec qui vous avez écrit plusieurs livres, et le premier desquels étant Un plat de porc aux bananes vertes, publié en 1967. Et j'aimerais qu'on parle de votre couple avec André Schwarzbart, qui avait reçu en 1959 le prix Goncourt pour Le Dernier des Justes. Et pour commencer, il me semble important qu'on puisse entendre votre rencontre, parce qu'elle est très belle.
Jamais je ne me serais attendu à rencontrer quelqu'un qui soit aussi éloigné de mon histoire et en même temps qui l'incarnait en fait à sa façon. J'avais perdu ma convocation au bac et j'allais la rechercher dans un bureau quelconque. Ça me semble si éloigné et si proche à la fois. Et voilà que s'avance vers moi, à la sortie du métro, un jeune homme tellement mal habillé, avec un manteau qu'il avale, avec des yeux immenses, mais en même temps craintifs. Et voilà que cette personne, qui est de peau blanche, m'adresse la parole en créole. En créole guadeloupéen. Et me fait savoir en créole guadeloupéen. Donc, ou pas ni en monde Martinique, ni en monde Guyane, en cas vrai qu'on soit en monde Guadeloupe. Voilà. Et qu'il me disait qu'il savait que je venais de Guadeloupe. Ça m'a mis en confiance immédiatement. Je me suis dit, tiens, il existe au moins en France, en territoire français hexagonal, quelqu'un qui sait que la Guadeloupe existe. En ce temps-là, la Guadeloupe n'existait pas. La Guadeloupe était tout près de Madagascar ou tout près de je ne sais pas quel continent. Et en plus, il parlait créole. Alors, il s'est proposé de m'emmener au bureau que je recherchais. Et après avoir repris une seconde convocation, il m'a invité solennellement à prendre un café. Mais quand nous nous sommes installés dans ce café, il a pris soin de me dire qu'il n'avait qu'un franc en poche. Et le café à cette époque-là, comment dirais-je, s'élevait à 45 centimes chaque café. Donc il nous restait quand même 10 centimes pour le pourboire. Et quand on a commencé à parler, du fait qu'il était un écrivain qui venait de remettre son manuscrit aux éditions du Seuil, il ne m'a pas précisé que c'était les éditions du Seuil qui venaient de terminer son manuscrit qu'il l'avait remis à l'éditeur. Et il paraissait tellement chargé encore de l'acte qu'il venait de commettre en livrant ce manuscrit à l'éditeur que j'en fus saisi. Je ne savais pas de quoi il en retournait en fait, pas du tout. Mais je savais que c'était un homme total que j'avais rencontré et que la manière dont il parlait des choses, de ses amis antillais, de son rapport avec cette espèce de joie de vivre qu'il trouvait chez nous autres et qu'il appréciait, alors que beaucoup de... et qu'il appréciait, donc qu'il appréciait à sa juste valeur, qu'il appréciait comme réponse aussi à justement à un mauvais sort, comme position dans la vie de, voilà, de dominer tout cela par une certaine philosophie qui consistait à plutôt cheminer dans une lumière et dans la joie. Il appréciait le caractère antillais à sa valeur. Et cela m'étonnait fort parce que nous étions trop bruyants. Quand j'étais justement, j'habitais un hôtel où chaque fois il nous était reproché de faire trop de bruit, de trop nous exprimer, de chanter ou de jouer de la musique, etc. Alors que c'est ce qui le charmait justement, me disait-il. Et en fait, nous avons parlé de tout, de rien, ainsi. Et il m'a bien prié de ne pas consommer, de ne pas boire ce café pour que le serveur ne vienne pas nous demander à consommer encore, à prendre une seconde consommation, de sorte que nous étions devant nos cafés froids, tranquillement, à discuter. Et puis ça s'est continué, ça s'est perpétué très longtemps, cette conversation. Ça n'en finissait pas. Et puis bon, est venu le moment où je lui ai dit que, puisque ma mère m'avait accompagnée à Paris, et elle m'attendait à l'hôtel et elle serait très inquiète, bien sûr. Donc je lui ai dit qu'il fallait absolument que je revienne à l'hôtel, que je rentre à la maison. Enfin, c'était ma maison à l'époque. Donc voilà, moi, comme j'avais des tickets de métro à n'en plus finir, puisque je me perdais tout le temps dans le métro, donc ma mère me munissait de carnets, et lui, il n'avait plus un franc en poche, et moi non plus d'ailleurs, mais on avait des tickets de métro. Donc il m'a ramené, je l'ai ramené, ensuite on n'arrivait pas tellement à rompre cette espèce de... je ne sais pas de quoi, de climat qui avait accompagné cette rencontre.
Et votre mère, Simone Schwarzbart, a eu une réaction un peu particulière quand vous lui avez parlé de cet homme, de cet André.
Mais oui, elle me dit, tu vas finir par te faire assassiner au bois de Boulogne. Hein. Tu suis n'importe qui, on te parle, tu arrives, tu vas dans un café, tu t'installes avec un inconnu. Et mais d'abord, cet inconnu, est-ce qu'il est antillais? Non, maman, il n'est pas. Il est quoi? Il est juif. Ah, mais ma fille, on va toujours te dire n'importe quoi. Mais les juifs, c'est le peuple de la Bible. Il n'existe plus de juifs. Il n'y en a plus.
Mais elle a sans doute, votre mère, dû apprécier, alors, à sa juste valeur, après coup, votre rencontre et votre amour avec... André Schwarzbart, Simone Schwarzbart, puisque vous dites que vous vous êtes peut-être rencontrés en ce jour, dit-on, du mois de mai à Paris, dans le quartier latin, mais en réalité, dites-vous, vous étiez ensemble depuis la sortie d'Égypte. Cette sortie d'Égypte, on la trouve dans la pensée, dans les écrits d'André Schwarzbart, quand il évoque cette nuit de la Pâque juive 1941, le dernier Seder, dernier repas qui... rituel qu'il a vécu en famille avant l'arrestation de ses parents, puisque ses deux parents ont été arrêtés, déportés à Auschwitz et sont morts là-bas comme deux de ses frères. Voilà, il évoque cette sortie d'Égypte. Enfant, c'est dans cette nuit toute pareille à celle-ci que nos ancêtres sortirent du pays d'Égypte où ils étaient réduits en esclavage. Cette vision, ce sentiment pour vous d'être à ses côtés depuis la sortie d'Égypte, qu'est-ce que c'est?
Il faut se rapporter à une petite note concernant le personnage de Chaïm dans l'Étoile du Matin. Dans ce livre posthume, dans ce livre juif, avec le thème juif qui revient donc, dans une des notes, il dit « Dieu nous a donné deux choses, La première chose, c'est de nous faire naître tous d'Adam. Nous venons tous du même ancêtre. Et ne dit-on pas qu'Adam a été constitué, le corps d'Adam a été constitué avec la terre prise aux quatre coins de l'univers. Donc, nous avons tous le même père et nous sommes tous parents. Et puis, deuxième chose, Dieu nous a donné à nous autres juifs d'être esclaves et il nous a donné la mémoire de l'esclavage. La mémoire de l'esclavage pour que nous nous ouvrions aux plus humbles. Et donc, ce sentiment-là le rapprochait énormément de notre histoire, à nous autres Antillais, qui commencent évidemment aussi, nous, avec l'esclavage. Ce sont, à ma connaissance, les deux peuples qui sont nés de l'esclavage. Bon, mais pour moi, évidemment, je pense que j'identifie en tout cas notre rencontre à des époques complètement défuntes, à des temps révolus, au temps biblique justement. À mon sens, il y a longtemps que nous voguions ensemble, tous les deux. Je pense que, par exemple, Moïse avait une femme noire. L'épouse de Moïse était noire. Et je pense qu'il y a pas mal de noirs, d'esclaves noirs aussi, qui ont quitté l'Égypte avec le peuple hébreu quand il est parti en exode. Et peut-être que j'étais l'une d'entre elles, et peut-être que lui, il était l'un d'entre eux. Je ne sais pas, l'un de ces juifs qu'une petite esclave noire avait séduit. Je n'en sais rien, comme Moïse. Je ne sais pas. En tout cas, tout cela demeure mystérieux et j'aime bien que ça le demeure. Une histoire d'amour impossible. Adieu, Bogota. Il est dit dans l'Évangile, selon saint Jean, que si tous les actes et paroles du Christ étaient retranscrits, toutes les bibliothèques du monde ne seraient pas assez vastes pour les contenir. Il me semble qu'il en va ainsi de la vie de tout être humain et de la mienne aussi. Ce livre n'est donc que l'écume de ma vie. Et ma mémoire est si lasse que c'est à peine si les souvenirs que je rapporte, je les considère comme miens. Ce serait donc l'écume d'une autre existence. Hélas non, il me faut l'avouer, si vague et jaunie soit-elle, ainsi que des photos du siècle passé, toutes ces images ne sont connues que de moi seul, et je les porterai jusqu'à mon dernier jour, au creux de moi-même, ainsi que des organes là, parmi l'agitation déclinante et à jamais incommunicable de mes entrailles. Je ne sais quelle nostalgie me vient aujourd'hui qui suscite en moi des réminiscences chrétiennes, comme si les émotions de la vieille femme, incapable de se soulever elle-même, prenaient appui sur celle de l'enfant que je fus. Ainsi, devant évoquer mon départ de New York et le voyage que la commune et moi fîmes à travers les petites républiques de l'Amérique centrale, il me vient à l'esprit une phrase que l'on croit être du Christ ou de l'homme nommé tel et qui, selon un magazine féminin, se trouverait dans une bibliothèque de manuscrits religieux découverte il y a quelques années en Égypte. Voici la phrase. Le Seigneur, à qui l'on demandait quand son royaume viendrait, répondit « Quand deux seront un, quand l'extérieur sera l'intérieur, et le mâle avec la femelle, ni mâle, ni femelle. Cette forme d'amour était la seule susceptible de me faire oublier l'odeur de chair brûlée des ruines de Saint-Pierre. Mais je ne la trouvais pas avec la commune. Pourtant, elle existe, j'en suis sûr, au moins à l'état de remords. Mais nous passâmes à côté d'elle, la commune et moi. Adieu Bogota.
Vous avez donc considéré que d'emblée vous aviez en commun, en particulier cette histoire de l'esclavage et de la déportation avec le juif André Schwarzbart, vous, l'Antillaise, la Guadeloupéenne Simone née Brument, et aux Antilles, dans les Caraïbes, en réaction à cette histoire de la déportation des Noirs africains et de leur esclavage, il y a eu aussi une volonté d'exode. Je pense à Marcus Garvey qui a voulu proposer un retour en Afrique. Il y avait ce fameux mouvement, ce désir du retour en Afrique. Et à votre façon, vous l'avez opéré puisque vous vous êtes installé quelque temps au Sénégal, où vous avez d'ailleurs poursuivi vos études de lettres à Dakar, Simone Schwarzbart. Vous pourriez nous décrire cette découverte et cette vie que vous avez eue avec André Schwarzbart au Sénégal ?
Il y avait une très forte volonté de retour en Afrique. C'était un mouvement qui existait chez les Afro-Américains, bien sûr, et chez les anciens colonisés, je dirais. Mais... pour moi, c'était aussi une façon de revenir, de retrouver mes Afriques, de retrouver mes racines, de retrouver un pays qui n'avait jamais cessé de m'appeler, de m'envelopper, de me mystifier. Comment est-ce qu'il se souvenait de nous, ce pays ? Aussi, de nous autres, ces enfants qui étaient partis. Qu'est-ce que c'était ? Est-ce que nous lui manquions à cette Afrique ? Mais je ne peux pas parler pour lui et dire vraiment ce que c'était que cette rencontre pour lui de l'Afrique. Cependant, je sais que le fait, déjà, de vouloir faire naître notre enfant, notre premier fils au Sénégal, était un engagement très fort vis-à-vis de cette fidélité à ce continent. Ça, nous n'en avons même pas discuté. Ça s'est fait spontanément. Puis, il y a eu ce séjour pour lui en pays d'Yola, qui a été, je pense, une étape complètement décisive dans son choix de décrire, de commencer justement toute cette saga antillaise, non pas seulement par l'esclavage, mais par l'Afrique précoloniale. Parce que la mulâtresse solitude commence par la description de ce que c'est qu'une vie dans une tribu. Et c'est la tribu des Diola, avec cette héroïne Bayane Goumé, qui est la mère de Solitude, de la mulâtresse Solitude. Et je pense que à cause de ce séjour, lui, au Sénégal, en pays Diola, et moi, à cause de moi, mon séjour en Afrique, l'écriture de la mulâtresse Solitude a commencé ainsi, que je vous le disais, en Afrique. Et pour moi-même, j'ai voulu rendre compte de mon sentiment avec mon héros, Tijan l'Horizon, qui retourne par l'intermédiaire du ventre de la bête, puisque c'est un conte qui parle du soleil qui a été avalé par une bête. C'est un peu aussi une science-fiction, un livre de science-fiction avant la lettre, bien sûr, qui parle de ce conte inouï où une bête avale le soleil et ce qui s'ensuit sur Terre. donc sur notre petite planète. Et cette balade conduit le héros en Afrique vers ses ancêtres où il est rejeté.
On peut peut-être dire que ce Tigeant l'horizon, qui donne donc son titre à votre roman Simon Schwarzbart, finit par retourner chez lui, comme souvent dans les contes, et il se trouve que vous aussi, d'un commun accord avec André Schwarzbart, après avoir vécu au Sénégal, après avoir vécu en Suisse, vous êtes retourné en Guadeloupe pour finalement vous installer à Guayave, où vous avez fait bureau commun, parce que ce commun accord et ce projet littéraire que vous portiez et que portait André, eh bien, il s'est tressé, je le disais, à quatre mains pour un certain nombre de romans. Et vous avez donc fait bureau commun à Guayave. Vous écriviez face à face, dans l'exaltation, dites-vous. Vous pourriez me décrire, vous gardez un souvenir de ces moments d'écriture à deux ?
Ce n'est pas un souvenir que je garde. C'est une réalité que je vis. Si je ne revivais pas, si je n'avais pas retrouvé cette exaltation, si je ne m'étais pas mise en position de recevoir et de faire revivre André à mes côtés, face à face, je n'aurais pas pu réécrire, reprendre l'écriture. C'est un sauvetage, finalement, parce que je m'enlisais et je m'enfonçais dans le silence, moi aussi, mais c'était un autre silence que celui d'André, parce que André a toujours continué, lui, à écrire, alors que moi, quand je suis moi aussi entré en silence à ses côtés pour tout simplement pour être à ses côtés silencieusement, eh bien je me sentais dépérir et ça aurait pu. C'est ainsi qu'on perd pied dans la vie et qu'on peut basculer de l'autre côté très facilement.
Je précise juste, Simon Schwarzbart, qu'après la publication de La mulâtresse solitude, qui était à la fois le titre de ce grand projet de Cycle Antillais et le titre qu'André Schwarzbart a donné à ce premier volume, publié en 1972, il a décidé de ne plus publier.
Au fil du temps, il écrivait, détruisait, réécrivait. À présent, nous savions qu'il ne publierait pas. Quelques semaines avant la fin, il me pria de prendre place à notre grand bureau et me dicta d'un trait le voyage à Auschwitz. Et il termina ce passage sur ces mots. Un titre possible, L'étoile du matin. Ce fut tout. Il avait un air mystérieux et paraissait tout jeune, joyeux, apaisé. Peu après, il décédait. Le sel avait perdu sa saveur et je ne me situais nulle part. J'avais fermé l'oreille au monde. Ainsi, deux années durant. J'ai alors pris conscience que si je voulais continuer à vivre, je ne pouvais demeurer loin de lui et qu'il me fallait absolument descendre au royaume des morts et l'en ramener. Alors, j'ai pénétré cet espace chargé de textes, manuscrits et notes éparses, de feuillets, fragments de cahiers personnels, de livres sur la Shoah annotés de partout, chargés aussi de tout ce qu'il aimait. Peinture d'Isaac Selnikière, de Borvin Frankel, objets africains achetés lors du séjour à Dakar, ouvrages de poésie du monde entier. J'ai donc entrepris dans un premier temps un travail de classement afin de sauvegarder ses écrits. C'est ainsi que je suis tombée sur une petite note qui mentionnait le nom de la chroniqueuse. Lynn Marie. Chargée de dépouiller les feuillets de manuscrits contenus dans les malles enfouis sous les ruines de l'Institut Yad Vashem. Lynn Marie est mon second prénom. Je m'appelle Simone Lynn Marie. Et brusquement, je compris. Je compris que, par-delà la mort, il m'avait fait une fois encore une place auprès de lui. Tout le secret se tenait là, dans ce legs silencieux. Dès lors, je n'étais plus seul. Il était là. De nouveau, on s'était rencontrés. La fin rejoignant le commencement. Il s'est alors assis à mes côtés. De nouveau, la planète me souriait. L'étoile du matin.
D'écrire à quatre mains, ça ne peut pas se faire, comment dirais-je, juste en empruntant une formule magique ou en ayant la volonté de reprendre le travail commun. Ça ne suffit pas. Il a fallu vraiment que je puisse moi-même sentir à un moment donné que son âme se collait à la mienne et que, à partir de là, j'avais la permission donc de reprendre le travail que nous avions commencé. Je pense aussi qu'il ne souhaitait pas publier de son vivant, mais j'ai eu l'impression qu'il attendait de moi, en fait, que je puisse porter cette œuvre au grand jour, que ce soit moi qui le fasse. J'en avais, moi, un tel besoin de ces différentes étapes de l'histoire, de notre histoire, de notre histoire occultée, de notre histoire déformée, et de cette espèce de dépossession que nous vivions, de voir qu'on avait fait le travail, on avait posé les jalons et que ça restait là. Ça me chagrinait énormément. Et donc, le fait de reprendre le travail, je pense aussi que André savait qu'il me sauvait en me léguant cette tâche de reprendre ce travail et de le porter, de le terminer, disons, de le terminer.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kenéen avec Simone Schwarzbart. À voix nue, réalisation Rafik Zénine, prise de son Frédéric Quérou, coordination Claire Poinsignon. Les émissions s'écoutent en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.